Bon, fait que Rex, ça devrait être en train d'enregistrer. Vous m'entendez bien? Comme si c'était. Bon. Alors, Martial disait ça nous fait aussi plaisir d'être ici. Ça rappelle toujours des souvenirs de revenir ici. Puis, on est vraiment content de vous voir, moi puis Sarah. Puis, la différence cette année, c'est qu'on avait nos trois enfants ce matin. Fait que. Non, juste pour vous donner un petit background d'où ce qu'on est rendu, on est rendu à, on vit présentement à Québec, mais l'église de Saint-Jean, qui est l'église de la rive sud que probablement certains d'entre vous connaissent, ils ont démarré une église fille à Laurier Station sur la, dans le fond c'est sur la 20 en s'en allant vers Montréal, c'est à peu près à 30 minutes. Donc, Sarah et moi, on s'implique là-bas. Donc, c'est une église dans une maison. C'est bien fait, là. Il y a comme un garage, il y a un deuxième étage, puis on est dans une maison. Puis les jeunes qui sont là, c'est les jeunes de parents là-bas à cette église-là. Fait que on œuvre là-bas. On commence, si vous voulez prier pour nous, on commence cette année le 20 octobre. On commence un groupe pour les jeunes. Dans le fond, c'est parce qu'on se demandait comment s'impliquer à Laurier Station, comment évangéliser. Puis on a pensé avec d'autres jeunes de notre église de commencer un groupe pour les jeunes. Fait que c'est des activités sportives, récréatives, mais qu'on parle de la Bible à travers ça, puis en espérant pouvoir rejoindre les parents un peu là-dedans, puis créer des liens. Ouais, c'est ça, Émile et Amy qui étaient venus cet été, ils sont pas venus au camp, non, le 2 ans. Donc, c'est ça, fait qu'on en est là. Le message de ce matin, c'est pas un message que j'ai moi-même concocté. Je me suis inspiré d'un message qui m'a profondément marqué. C'était en mars dernier, c'est ça, en mars dernier. On était en Floride en auto, puis on est revenu. Puis là, on se demandait. On a tout le temps l'habitude d'arrêter à une église à New York. C'est une grosse église quand même. Puis on voulait arrêter cette fois-là, mais il y avait plusieurs embûches. Je sais pas pourquoi, mais il y arrivait plein d'affaires qui ont fait qu'on dirait qu'on pouvait pas y aller, puis on se décourageait. Aux États-Unis, il y a des routes, ça s'appelle des tolls, puis là tu passes, puis là on a pogné un 17$ ou quelque chose de même US, puis là Sarah pleurait. On était vraiment découragés, puis on dirait que tout ce qu'on essayait, ça marchait pas, puis on pouvait pas se rendre à l'église. Mais en tout cas, finalement, on a pu se rendre. Puis ça a vraiment été un message que je pense que Dieu voulait que j'entende. Puis probablement, je sais pas trop si c'est Satan qui voulait pas qu'on se rende, quoi que ce soit. Mais c'est puis la traduction de ça, c'est vous voulez pas ce que le diable fait mijoter dans son croque-pot. Fait que c'est ça le titre du. Puis dans le fond, en fait, ce que je vous apporte ce matin, c'est vraiment comme ma propre réflexion par rapport à ça. Mais c'est un message qui a déjà été comme conçu. Puis je me suis basé aussi sur un livre que ce pasteur-là a écrit, qui s'appelle Swipe Right. C'est un livre anglais. Donc, j'avais parlé de cette prédication-là à un de mes amis, Émile. Il a vraiment, là, je l'ai encouragé à acheter le livre, il a acheté le livre, puis là, j'y ai emprunté, puis c'est moi qui l'ai depuis ce temps-là. Fait que, mais c'est ça. Fait que, je vais commencer par vous dire que quand on était jeune, puis je ne sais pas si les Saint-Laurent vous vous rappelez de cette époque-là, mais mon père était chiropraticien, on était à l'église de Sept-Îles, puis un moment donné, mon père, je pense Dieu, il a vraiment parlé, puis il a eu à cœur d'aller étudier aux États-Unis, à Los Angeles. Fait que c'est pas mal loin. Fait qu'il a embarqué. On a embarqué tous dans une vieille, vieille, vieille Dodge Caravan. Puis on est monté à Los Angeles. Puis si on l'a fait, on a fait le voyage 3 fois aller-retour. Fait que c'est vraiment un miracle que cette vanette-là a toffé. Je vais vous montrer juste une petite photo de c'est quoi, ça ressemblait à quoi. Donc ça, c'était nous autres, la famille, puis on avait un couple d'amis que mes parents connaissaient. Puis ça, c'était notre vanette, puis un vieux, vieux, vieux trailer qu'on avait pacté de toutes les livres que mon père avait besoin pour étudier là-bas à Los Angeles. Fait que c'était vraiment intéressant parce que je me rappelle la première fois qu'on est monté, ou je sais pas trop c'est quelle fois, mais tu peux mettre la deuxième photo. Fait que ça a surchauffé à cause des livres puis l'état de la vanette. Puis je me rappelle qu'on avait dû s'arrêter puis livrer des livres par la poste parce qu'on était sûr qu'on n'allait pas se rendre. Fait que ça, c'est ma mère qui fait semblant de comprendre un moteur. Mais en tout cas, c'était vraiment. C'était une période de ma vie que je me rappelle que. T'sais, avec, t'sais, on a vendu la maison, tout ça, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent, mais c'était une période de notre vie où ce qu'on n'a jamais manqué de rien, mais c'était une période de notre vie, justement, on n'avait pas, on vivait pas dans le gros superflu, puis du spaghetti, on en mangeait à tonnes. Fait que c'est bon, c'est ça. C'est un peu ça qui m'a marqué de cette époque-là, parce que Dans le fond, c'est ça. Je me rappelle, on revenait tous les dimanches midi, puis ma mère, elle faisait mijoter une sauce à spaghetti dans son croque-pot. Elle partait ça le matin. Puis quand on revenait l'après-midi, je vous le dis, là, c'est un souvenir que j'ai, que je suis vraiment jeune, mais c'était, tu sais, à Los Angeles, il fait chaud, fait que c'était un screen. Puis à peu près à 10 pieds, là, de la porte, tu le sentais déjà, là, la sauce aux spaghetti. Puis là, c'est comme si tes papilles gustatives, ils se réveillaient parce que tu savais ce qui s'en venait dans pas long. Tournez avec moi dans Genèse 25 à partir du verset 19. En fait, c'est la première fois dans la Bible qu'on entend parler du spaghetti. Non, c'est pas vrai, ça va être sur Ésaü et Jacob. Donc, on va commencer, je vais lire à partir du verset 19 jusqu'à, mettons, 25, là, ça va être plus pour nous mettre en contexte. Mais sur ce que je vais me baser, ça va être à partir du verset 26. Donc, ça dit « Naissance d'Ésaü et Jacob. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je vais juste prier avant qu'on commence. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes entre frères et sœurs. C'était vraiment encourageant, Seigneur, le culte ce matin. Puis merci pour justement ton sacrifice à la croix, Seigneur. C'est spécial de voir qu'on est toutes ici, toutes des personnes qui probablement, sans toi, Seigneur, ne se connaîtraient même pas. Puis je te prie vraiment de bénir ta parole, bénir ce message que je veux apporter ce matin. Puis je te prie que vraiment ça soit ton Saint-Esprit qui parle à travers moi. J'ai à cœur certaines choses, mais peut-être que tu vas diriger autrement. Puis vraiment que je puisse être à l'écoute de ça. Puis que tu puisses vraiment parler à chacun d'entre nos cœurs. Qu'on ne sorte pas d'ici comme ayant entendu un message, mais vraiment qu'on puisse être prêt à agir, Seigneur. Puis c'est ça, je te prie de toucher autant mon cœur que le cœur de mes frères et sœurs ici. Puis vraiment que ton Saint-Esprit dirige ce temps. Puis bénis ta parole, Seigneur. Amen. Alors, ce qu'on voit, ce verset-là, ben, dans le fond, vers la fin, comme je vous disais, là, c'est plus à partir du verset 26. Mais on peut penser que les deux frères auraient passé l'après-midi ou la journée à faire ce que chacun d'entre eux faisait quotidiennement. Donc, on pourrait penser que Ésaü, il avait passé la journée à chasser. Il avait chassé des animaux sauvages toute la journée. Puis que Jacob, lui, il avait resté sous les tentes, essayé une coupe de recettes sur Ricardo. Puis, essayé une coupe de recettes de potage. Puis, c'est ça. Puis, je sais pas comment ça l'a été. Moi, je suis pas un grand chasseur, mais il y en a-tu qui chassent un peu, qui ont déjà chassé? Gabriel, vous? Ouais, un petit peu. Mais tu sais, la chasse, ça va pas tout le temps comme on veut. Fait qu'on sait pas si Ésaü a pogné de quoi ce jour-là. Puis tu sais, je me disais, s'il a pas pogné de quoi, il va être peut-être même encore plus fatigué, on sait pas. Mais ça dit qu'il rentre de cette journée-là complètement, ben vraiment fatigué. Donc Ésaü rentre dans la tente, ça sent incroyablement bon. Puis on peut penser qu'après une journée à chasser puis tout ça, ben là, ce sentiment-là de faim qu'il y a, ben ça fait peut-être bien quelques heures qu'il traîne. Et Puis là, plus aucune énergie. Puis là, il pogne l'odeur du potage que Jacob fait mijoter. Ça fait peut-être bien quelques heures dans sous la tente. Et là, c'est drôle parce que l'auteur dans le livre, il décrit ça comme une scène de Looney Tunes. Looney Tunes, c'est les petits animés, là, Bugs Bunny. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Mais tu sais, dans les bandes dessinées ou les cartoons à la TV, c'est toujours caricatural un peu. Puis il dessine même l'odeur. T'sais, tu vois l'odeur dans la bulle qui arrive, puis que ce soit Bugs Bunny ou n'importe quel autre, il se fait vraiment hypnotiser par l'odeur. Puis il décrivait ça comme ça un peu. Et puis s'il y aurait bien un moment où ce qu'on pourrait utiliser l'expression « saisir la balle au bon », c'est avec la réponse que Jacob donne à la question d'Ésaü. Parce que là, Ésaü, on voit qu'il demande, en fait, « donne-moi de ce potage », je vais juste le relire. Donc, Ésaü revient des champs, puis demande « laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué ». Puis là, Jacob répond, c'est ça, de suite, ben, tu sais, je vais t'en donner, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Puis je me suis questionné par rapport à ça, puis je me suis demandé, on dirait que, tu sais, Jacob était tellement prêt à répondre ça, je me demande s'il avait déjà prévu éventuellement, il demandait de quoi, ça de quelconque façon. En tout cas, on ne le sait pas. Mais je veux juste éclairer pour vous, c'est que ça signifie quoi le droit d'aînesse? Parce que, tu sais, Ésaü, lui, dans cette situation-là, il était prêt à donner son droit d'aînesse, mais c'est quoi réellement ce droit d'aînesse-là? Ce droit d'aînesse-là, c'est une double portion de l'héritage. Dans le fond, l'aîné est perçu comme deux personnes dans la famille. Fait qu'admettons, pour vous donner un exemple concret, s'il y avait deux fils, le premier-né, l'aîné, lui qui avait l'héritage, le droit d'aînesse, avait droit à deux tiers de tout ce que le père laissait derrière à sa mort. Ça signifiait également le rôle de leader. Le premier-né était le chef exécutif de tout ce qui avait attrait à la business familiale. Fait que dans le fond, admettons, il pouvait avoir des frères et sœurs, mais l'aîné avait le dernier mot, puis peu importe la décision qu'il prenait, ses frères et sœurs devaient se plier à la décision qu'il prenait. Mais dernièrement, puis ce qui est le plus important, c'était vraiment la bénédiction du père. Puis dans le cas de la descendance d'Abraham, ça voulait également dire la promesse d'une descendance qui allait éventuellement mener au Messie. Fait que c'était quelque chose, là. Ésaü, il laissait tout ça aller. Puis c'est fou parce qu'Ésaü, il n'aurait même pas dû considérer pour une seule seconde ce deal-là que son frère Jacob lui proposait. Il aurait dû me dire, est-ce que tu me niaises? T'sais, je ne laisserai pas tout ça aller pour un bol de soupe. Puis Andy Stanley, un pasteur américain qui a déjà prêché sur ce texte-là, il dit, si j'aurais pu caller un time-out à ce moment-là puis parler tête à tête avec Ésaü, ce que j'y aurais dit, j'aurais essayé d'y faire prendre conscience que bientôt, Dieu allait s'introduire à des personnes ultra importantes comme Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. » Mais si le deal continuait, puis on sait que c'est ça dans nos bibles aujourd'hui, que Dieu allait s'adresser à ces personnes-là, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est ça qui est arrivé à cause de ce que Ésaü a décidé de faire. Parce qu'Ésaü a décidé que sa fin, FIM, immédiate était bien plus importante que tout ce qui pouvait venir pour lui dans le futur. C'est comme s'il se disait, ben, il y a quoi de bon dans une promesse qu'éventuellement un jour je vais peut-être retirer quelque chose quand je peux avoir quelque chose maintenant? Puis je sais pas, mais moi quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a tout de suite fait penser à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On est rendu dans une société qui se peut plus d'attendre. Puis je vais en reparler un peu plus loin. Dans le fond, juste comme ça, mais tu sais, on sait que c'est pas juste là que ça s'est concrétisé. Il y a eu après ce qui est arrivé avec Jacob, sa mère, pour comme, en tout cas avec le poil, vous connaissez le reste de l'histoire, mais tout ça pour dire que à partir de là, puis tout ce qui est arrivé par la suite, ben vraiment, Ésaü a donné son droit d'aînesse. Puis il a donné tout son héritage contre quelque chose qui lui a permis de se sentir bien pour le moment présent. Puis cette soirée-là, ou cet après-midi-là. Ce qui est vraiment spécial, c'est une phrase qui m'a énormément marqué, mais ça dit « Ésaü aurait pu faire partie d'une série d'événements incroyables qui aurait mené à la venue de Jésus-Christ dans le monde. Mais par ce geste-là, il s'est complètement effacé de l'histoire. » Il y a une expression en anglais qui dit « He wrote himself out of the story. » C'est comme si Ésaü décidait de réécrire l'histoire et de dire « Bon, regarde, moi, j'en fais pas partie. » Puis le pire dans tout ça, c'est que le matin suivant, il avait encore faim. Il avait digéré complètement, il avait éliminé le repas qu'il venait de prendre, puis il avait encore faim, puis il allait encore devoir manger cette journée-là. Puis je ne vous demanderai pas de tourner, mais je vais juste vous lire quelque chose dans Philippiens 3 à partir du verset 18. C'est dans un contexte particulier, ça parle vraiment de les personnes qui sont ceux qui marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose que... Ben vous pouvez tourner. C'est dans Philippiens 3 à partir du verset 18. Fait comme je vous dis, c'est vraiment un contexte particulier. Je ne veux pas se l'approprier à nous autres-mêmes. Paul parle vraiment à ceux qui marchent en ennemi de la croix. Mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose à retirer de ça. Fait au verset 18, ça dit « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et comme je mentionnais tantôt, on vit dans une société aujourd'hui qui n'est plus capable d'attendre. C'est tout de suite la carte de crédit, les dettes incroyables, on veut simplement plus attendre. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, ben, en tant qu'enfant de Dieu, là, je ne l'approprie pas à toutes les personnes qui vivent dans le monde, mais quand on vit pour ce monde-ci, quand on vit pour des choses qui passent, ben, on échange l'ultime qu'on pourrait avoir en Jésus-Christ pour l'instantané. Quelque chose d'instantané de même qui va passer, qui va être satisfaisant. Je veux dire, le monde, ce que ça a à nous offrir, c'est le fun. Là. Je ne suis pas ici pour débattre, il n'y a rien de fun, mais c'est le fun, puis ça passe. Puis on va échanger, on va décider en fait d'investir pour un petit moment passager plutôt que d'investir pour l'éternité. Puis je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez l'émission, c'est une émission en anglais, je pense qu'il y a une adaptation en français, mais en anglais c'est Shark Tank. C'est une émission où ce que des inventeurs ou des personnes qui ont starté une petite business ou qui ont une idée quelconque de quelque chose qu'ils voudraient mettre sur le marché vont devant un panel d'investisseurs qui ont énormément d'argent, présentent leur idée puis espèrent que ces investisseurs-là vont investir dans leur idée. Puis, fait que dans le fond, c'est un panel, je me rappelle plus exactement il y a combien de personnes, peut-être 5-6. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que puis le pire, c'est que c'est des idées incroyables. Là, t'arrives, puis t'as des personnes qui ont des concepts là, hors de ce monde, puis c'est vraiment des bonnes idées, mais à toutes les fois, les sharks ou les requins, ben, les investisseurs vont toujours tenter de faire une sous-évaluation de la business, de l'idée, pour pouvoir moins payer, puis faire un meilleur deal. Fait qu'admettons que la personne va dire, bon, j'ai cette affaire-là, j'ai commencé à le vendre, ça vaut, je pense que ma business vaut 500 000. Mais là, les investisseurs vont dire, bon, ça vaut 200 000, moi, je dirais, puis je te donne pas plus que ça, parce qu'ils veulent, en tant qu'investisseurs, en retirer le plus qu'ils peuvent. Puis dans ce groupe de personnes-là, c'est une émission qui passe souvent, puis il y a un monsieur qui s'appelle Mr. Wonderful, qui en français, c'est Monsieur Merveilleux. En tout cas, c'est le nom qu'il se donne. Puis, tu sais, déjà là, on sait que c'est un gars quand même avec un assez grand ego. Puis, lui, là, il bâche vraiment tous les participants. Puis, tu sais, il va dire des choses comme « Tu vas te faire écraser comme la coquerelle que t'es » ou bien « Tu vaux rien pour moi ». Puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans un esprit de rabaisser les autres. Puis, encore comme je disais tantôt, sous-évaluer la valeur de cette personne-là. Puis, c'est intéressant parce que... t'as peu, j'ai pas viré. OK, c'est exactement ce que Satan fait avec nous. Satan, dans le fond, c'est l'ultime prédateur. Puis, il va toujours essayer de nous arnaquer. En nous offrant quelque chose qui est beaucoup, beaucoup moins que notre valeur, que la valeur qu'on retrouve en Jésus-Christ, que ce que Jésus-Christ a à nous offrir. Puis il peut nous arriver en tant que croyant de se laisser croire qu'on est ordinaire, qu'on est quelqu'un comme les autres, mais c'est tellement pas le cas. Puis si on croit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il nous a sauvés, qu'il a donné sa vie pour nous, on a parlé beaucoup ce matin, mais il faut se rappeler qu'on est des fils et des filles du roi des rois. On a été sauvés par le Fils de Dieu et scellés du Saint-Esprit tel que promis. Puis ça, c'est une phrase qui me fait capoter, puis on dirait, je réalise pas l'ampleur de ça, mais imaginez-vous qu'un jour, on est destiné à régner avec Christ. C'est quelque chose, on lit ça dans la Bible, puis on dirait qu'on le comprend pas, mais on fait part de quelque chose, on peut prendre part à quelque chose d'incroyable. Puis aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse partie de la business familiale. Puis, tu sais, on peut penser que la vie chrétienne, bon, on investit, ça va tout être plus tard, mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose vraiment à aller rechercher aujourd'hui même. C'est pas juste, puis je pense que le gros de ce qu'on investit, ce qu'on sacrifie, on va le récolter au ciel, mais je pense quand même que Dieu peut nous apporter une joie, une satisfaction qui sera pas toujours des highs constants, mais que, tu sais, il y a quelque chose à retirer dans cette vie-ci en tant que croyant. Longtemps, moi, le potage que Satan avait à m'offrir, c'était la consommation. C'était d'aller d'un bord, aller d'un party. Puis ça, c'est un exemple vraiment concret de quelque chose que tu investis puis qui passe, ça disparaît. Mais puis en fait, le livre que j'ai lu sur lequel je me suis basé, ça parlait de ce potage-là comme étant le sexe en dehors du mariage. Tu sais, pour une aventure d'un soir, pour quelques clics sur un site pornographique, on va briser une famille entière, on va briser un couple. Puis c'est un peu ça l'image. Je me suis posé la question, puis je me suis dit, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de potages différents, puis Satan va savoir exactement quel potage va venir rejoindre chacun d'entre vous. Puis moi, je connais pas vos vies, mais je sais qu'il y a des choses dans vos vies que c'est ça, que Dieu... que Satan, que le diable peut venir vous faire miroiter, que ben, ça va être bon, puis finalement, on se perd un peu là-dedans. Puis, il va avoir un potage qui baigne dans un croque-pot pendant des heures à nous offrir juste au bon moment. Quand on est fatigué, quand on est découragé, quand on n'a plus le goût de continuer, il va avoir ça qui sent bon, Colin, puis, mais qui va rien donner au bout. Puis, je vous encourage vraiment à penser à qu'est-ce qui empêche Dieu de vous amener là où il voudrait vous amener? Il faut vraiment s'arrêter. Puis moi, je vous encourage aujourd'hui, tu sais, je pense que quelqu'un qui parle en avant, on peut l'écouter. Puis, mais tu sais, je vous encourage vraiment à prier là-dessus. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, dans ma vie, de laisser Dieu agir, puis de laisser Dieu m'amener là où ce qu'il voudrait m'amener? C'est fou parce qu'on peut, en tant que croyant, être sauvé puis passer complètement à côté du but que Dieu aurait pour nous. C'est complètement fou. Puis je le vois dans ma vie, quand j'investis pour des choses qui ne sont pas des choses de Dieu, ben, je m'écarte de la route. Puis tu sais, je me dis, si Dieu a des plans pour moi, j'aimerais ça vivre dans ces plans-là. Donc c'est ça, je vous encourage à penser à qu'est-ce qui empêche Dieu de vous amener là où il voudrait vous amener. On peut s'engourdir momentanément dans tellement de choses. Toutes les plateformes, Facebook, Pinterest, Instagram, les films, les téléséries, la musique, le succès dans le travail, les passe-temps dans lesquels on s'investit, les voyages, une bonne retraite. Puis c'est tout. C'est pas des mauvaises choses. Je suis pas là pour vous dire que, bon, faites pas ça. C'est vraiment pas ça. Je pense qu'il y a vraiment aussi du bon à retirer là-dedans. Mais faut pas oublier que c'est des choses dans lesquelles on peut s'engourdir si facilement et oublier complètement c'est quoi notre but en tant que fille et fils du roi. Puis ma prière, c'est vraiment qu'en tant que frère et sœur, on n'ait pas peur de s'investir dans ce qui va durer pour l'éternité. Pensez-y deux fois quand vous allez pogner une petite whiff de potage. Je vous dis, là, l'image est vraiment forte. Moi, là, cette prédication-là, là, elle a vraiment... Ça a été vraiment personnellement la prédication qui a le plus marqué ma vie parce que des semaines après, puis là, je le fais un peu moins, mais à toutes les fois qu'arrivait une occasion, quelque chose... Je me l'illustrais vraiment comme un potage ou quelque chose que Satan m'offrait qui était passager. Puis c'était le fun parce que le combat, il était là. J'étais là, ça me tente. Puis comme je vous disais tantôt, c'est le fun. Le potage, c'est réconfortant. Ésaü, je suis sûr que sur le moment, il en a profité en tabarouette de son potage. Mais par la suite, il en fallait d'autres. Puis c'est ça, si vous pouvez juste réfléchir à ça, faites le test cette semaine, tu sais, quand vous allez, puis je sais pas c'est quoi dans vos vies, mais quand vous allez pogner quelque chose que vous savez que ça va juste vous faire dévier de la route un peu, de vraiment se mettre cette image-là, puis c'est le fun, parce qu'on dirait des fois je ris, tu sais, parce que je réalise, ah, tu sais, je sais que c'est pas vrai, puis ça, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pensez-y deux fois quand vous allez pogner une whiff d'un bon potage. C'est plus dur, tu sais, tantôt je disais, la vie en Jésus-Christ, c'est, je pense qu'on en a énormément à retirer dans cette vie-ci, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que de s'asseoir devant notre TV, écouter, puis je suis coupable de ça, je vous le dis, priez pour moi, mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile de passer une soirée, je vais vous donner un exemple, passer une soirée à prier pour... un collègue de travail qui veut rien savoir de l'Évangile, que de simplement s'asseoir devant la télévision puis se laisser nourrir. Donc, Quand on pogne une senteur quelconque, oui, ça me tente, mais il y a quelque chose de bien mieux si je m'attends puis si je fixe les yeux sur Jésus-Christ. Puis même si c'est dur à aller chercher, même si ça fait mal à aller chercher, je veux persévérer puis je veux y aller parce que je sais que ce que Jésus a à m'offrir, c'est beaucoup mieux. Donc ma prière, c'est ça, c'est que Dieu nous donne à tous, puis je m'inclus vraiment là-dedans, mais du discernement. Parce qu'on peut sortir d'ici, puis les exemples que je vous disais tantôt, films, tout ça, on peut sortir d'ici radical, puis dire, bon, j'arrête complètement les films, on sait que ça ne durera pas, je l'ai essayé plein de fois. C'est pas ça, mais c'est vraiment que de demander à ce que Dieu nous donne du discernement là-dedans. Il n'y a rien de mal d'un bon film, quelque chose, mais que Dieu nous aide à avoir le cœur à la bonne place là-dedans. Tu sais, que ça ne devienne pas quelque chose qui nous guide dans la vie. Puis, une citation que je lisais un moment donné, ma mère, tu sais, j'ai lutté beaucoup avec la consommation quand j'étais adolescent, puis même un peu plus après, puis ma mère, elle m'avait acheté un livre sur les addictions, les dépendances. Puis ça disait, c'était un livre chrétien en fait, puis ça disait, toutes les choses dans lesquelles vous vous investissez, autres que le seul vrai Dieu, vont éventuellement vous laisser vide. Puis c'est intéressant parce que je pense que le mot éventuellement, il est bon là, parce que comme je vous disais tantôt, il y a un plaisir à aller rechercher dans les choses du monde, mais éventuellement, ça va nous laisser vide. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, ma prière, c'est vraiment que Dieu nous donne du discernement. Puis, c'est ça. Qu'on se répète que vous ne voulez pas ce que Satan vous fait mijoter dans le croque-pot parce que c'est pas assez. C'est pas assez. Puis, dans tout ça, avec l'aide de Dieu puis du Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment prier qu'on ait le cœur à la bonne place. Je vais simplement terminer avec le reste du verset dans Philippiens que j'ai lu tantôt. Je vais vous remettre en contexte un peu. Je relis à partir du verset 18. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » Donc, c'est c'est ce que j'avais à cœur de vous partager, puis j'aimerais juste finir par un mot de prière. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce temps qu'on a pu passer ce matin pour cette histoire-là qui nous rappelle, Seigneur, que même si on a tellement à retrouver en toi, Seigneur, souvent, on va décider de l'investir pour d'autres choses, Seigneur. Puis je te prie vraiment que ce soit un message, que ce soit quelque chose qui travaille mes frères et sœurs cette semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'on puisse pas avoir peur, même si c'est plus difficile, même si ça nous demande tellement plus parfois d'investir dans le royaume, Seigneur. Puis c'est ça, que tu puisses nous donner de voir les pièges que Satan dresse partout dans notre société. Je veux dire, on vit d'une société qui est tellement engourdie, qui vit juste pour le divertissement, juste pour le plaisir, juste pour le maintenant, mais que par le travail de ton Saint-Esprit, ben, tu nous arraches de ce monde-là, Seigneur. Puis qu'on puisse retrouver tellement plus en toi, Seigneur, tellement plus dans ce que tu as à nous offrir. Puis que c'est ça, qu'on n'ait pas peur de porter notre croix chaque jour parce qu'on sait que ce qui s'en vient est beaucoup meilleur, Seigneur. Amen. Alors, pour le reste, je ne sais pas, y a-t-il quelque chose après? Ah oui, c'est vrai, je vais fermer ça. Fait que là, je pèse sur stop.